Bonjour à tous. Dans la Bible second, le mot épreuve est noté 79 fois au singulier, 29 fois dans l'Ancien Testament et 50 fois dans le Nouveau. Il est noté 9 fois au pluriel, 4 fois dans l'Ancien Testament et 5 fois dans le Nouveau. Au singulier, la première fois que nous le lisons, c'est en Genèse 22:1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Il répondit « Je suis là ». Et la dernière fois que nous le lisons, c'est dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve. L'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. L'épreuve. Parfois l'épreuve revient des autorités. En Genèse 42:15, nous pouvons lire « Voici l'épreuve que vous subirez par la vie du Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère. Vous autres, vous irez en prison. On mettra ainsi vos proches à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. » L'épreuve peut venir aussi de Dieu, Dieu lui-même. Dans Exode, toujours, on lit « Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis le ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. » Dans Exode, plus loin, Exode 20, verset 20, Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour vous qui avez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez pas. » Mais parfois, c'est aussi nous qui mettons Dieu à l'épreuve. Dans la Bible, dans Juges, verset 6:39, Gédéon dit à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi, je t'en prie, je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais procéder encore à une épreuve avec la toison, que la toison reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol partout ailleurs. » Jésus, je ne vais rien vous apprendre, lui aussi a été mis à l'épreuve. Alors que Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable, en Matthieu 4:1. En Matthieu 6, nous pouvons lire aussi, « Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Les pharisiens et les sadducéens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Toujours dans Matthieu, en 22:35, il y a d'autres passages, mais je m'arrêterai là. Et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Quand on parle d'épreuve, Jésus sait ce que c'est. L'épreuve, tout comme la joie et la gaieté, font partie de notre vie. Ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie à Dieu, que nous avons mis notre foi en Jésus, mort pour nos péchés, que nous nous efforçons jour après jour de marcher dans les voies des Seigneurs, que nous n'en aurons pas. Dieu la permet et il nous éprouve. Il nous éprouve en demandant de grands sacrifices. La demande de Dieu est toujours en rapport avec notre foi. Plus la foi sera grande, plus l'épreuve sera grande. Dieu osa demander à Abraham son propre fils, car Dieu le connaissait et savait qu'il pouvait passer ce test avec succès. Soyons rassurés, Dieu ne nous demandera jamais des choses impossibles. Il connaît nos capacités plus que nous ne les connaissons nous-mêmes. Dieu nous met à l'épreuve en nous donnant le libre choix. Demande ce que tu veux. À Salomon, lors d'un songe, et Salomon a demandé la sagesse. À Élisée, lors de l'enlèvement d'Élie, et Élisée a demandé une double portion de l'Esprit de Dieu. La plupart des êtres humains auraient certainement demandé l'argent, la santé, une famille unie, tout le confort d'une belle maison. Au contraire, la foi de Salomon et d'Élisée leur a fait demander des choses simples. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux brigands, à côté de Jésus sur le mont Golgotha, qui a seulement demandé qu'ils se souviennent de lui. Cet homme avait tout compris. Il aurait pu demander à Jésus de le faire descendre de la croix et de le faire disparaître. Mais il a choisi la vie éternelle. Il a eu foi en Jésus. Voilà tout. Dieu nous met à l'épreuve en nous proposant parfois des tâches difficiles. Dans la Bible, quand Jésus demande au paralytique, en Jean 6, versets 5 et 6, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Mettons-nous un instant à la place de cet homme cloué sur la paillasse depuis 38 ans. L'épreuve n'est pas physique, mais il y a dû y avoir une sacrée bataille dans la tête de cet homme. Accepter que Jésus lui avait dit « Lève-toi et marche ». Imaginez les disciples quand Jésus leur demanda de nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Pour eux, c'était impossible, irréalisable. Pourquoi Jésus leur demandait-il cela? Que voulait-il leur apprendre? À quelle sorte d'épreuve voulait-il les soumettre? Jésus voulait montrer leur impossibilité et les grandes ressources qu'ils pouvaient déployer. Jésus voulait que les disciples expriment leurs limites pour découvrir sa puissance. Dieu nous met à l'épreuve par la souffrance, dans la fidélité. En Actes 16, versets 23-24, nous disons « Après les avoir chargés de coups, ils jetèrent Paul et Silas en prison. » L'épreuve n'est pas une réprobation divine. La fidélité ne nous dispensera pas des épreuves. Dieu peut sauver des âmes par le moyen de ceux qui passent par l'épreuve. Et c'est ce qu'il a fait par l'épreuve de Paul et Silas en prison. Pour leur foi, il a sauvé toute la famille du gardien de la prison à travers l'épreuve de Paul et Silas. Une de mes étapes dans mon cheminement avec Dieu fut l'épreuve que subit une amie il y a plusieurs dizaines d'années. Elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Et malgré ses souffrances, elle ne cessait de répéter avec douceur « Jésus est là, il est là ». J'ai été pratiquement le dernier de ses amis à la voir. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai demandé à Dieu de la reprendre, car je pensais au fond de moi que cela n'était pas juste. Tant de souffrances. Pourquoi? Le lendemain, j'ai appris que le Seigneur l'avait rappelé dans la nuit. Pour moi, cela a été une étape dans ma vie avec Dieu. Non pas parce qu'il avait répondu à ma prière, nous étions nombreux à faire de même, mais parce que la foi de Mireille au plus profond, au plus dur de l'épreuve, était totale. Jésus était là, auprès d'elle. J'en suis convaincu. Et je sais qu'il est à nos côtés chaque jour. Et ce que j'ai vu et connu de l'épreuve de Mireille m'a fait avancer dans ma foi. Dans ma foi en Dieu, en Christ, chemin, vérité et vie. Dieu a mis à l'épreuve Gédéon en réduisant son effectif de 32 000 combattants à 300. Car Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as eu, que tu as avec toi est trop nombreux pour que je lui livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui vaperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire, se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. » Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint les 300 hommes, le camp de Madian. Madian était en dessous de lui dans la vallée. Imaginez Gédéon, 32 000 hommes. Il dit là, je suis costaud, hein, je vais pouvoir y aller. Il pensait que ça allait être bien. Il allait pouvoir combattre. Mais voilà que Dieu réduit ses effectifs à 300 hommes. Là aussi, ça a dû être une sacrée tempête dans sa tête. Mais Gédéon, par sa foi, a remporté le combat. Dieu veut nous apprendre à dépendre pleinement de lui. Il met à l'épreuve Élie en l'envoyant chez une pauvre veuve. Et celle-ci est mise à l'épreuve en offrant ses dernières ressources à Dieu. Et nous savons qu'après cette épreuve, elle a vécu dans l'abondance. La farine et l'huile ne se sont pas épuisées. L'épreuve nous apprend à compter pleinement sur Dieu. Pourquoi les épreuves? Et pourquoi Dieu parfois tarde-t-il tant à répondre? Beaucoup ont l'impression d'être oubliés par Dieu au milieu de leur épreuve. Au psaume 13, nous pouvons lire « Au chef des chantres, psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne aux mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » David crie à l'Éternel. Il est au fond du trou. Certainement, il se demande si Dieu ne l'a pas abandonné. Mais à la fin du psaume, il se repent. Il se reprend, pardon, et il termine avec ces deux versets. « Moi, j'ai confiance en ta beauté, à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Dieu nous met à l'épreuve. Dans l'Apocalypse, nous pouvons lire « Vous aurez une tribulation de 10 jours. » Cela veut dire que Dieu contrôle la durée de l'épreuve. Même quand l'épreuve paraît au-delà de nos forces, C'est pour nous rappeler la puissance de la résurrection. En 2 Corinthiens 8 à 11, nous pouvons lire « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de placer notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. » Le but final de l'épreuve est une occasion de rendre grâce. C'est aussi le moyen pour nous de nous rapprocher de lui, de nous rappeler que nous ne sommes rien et qu'avec lui, nous pouvons tout. Philippiens 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, vous devez vous dire, le chrétien, il déraisonne. Il dit qu'il faut que nous passions par l'épreuve pour nous rapprocher de Dieu. Peut-être avez-vous le sentiment de n'avoir pas vraiment connu d'épreuve, que finalement votre vie est un long fleuve tranquille, pas plus tourmenté que bien du monde. Et pourtant, posez-vous un instant, rembobinez le fil de votre vie, passez objectivement toutes ces années et rappelez-vous tous ces moments où vous avez douté, toutes les fois où vous avez dans le secret de votre cœur ou avec d'autres frères et sœurs plié le genou pour demander à Dieu une délivrance, où vous avez pensé que tout était fini, que la faillite était pour demain, que vous alliez peut-être perdre votre boulot, que cette maladie finirait par vous avoir, que votre couple allait éclater. Le monde, notre société de consommation, tente de nous faire croire que l'homme peut se débrouiller par lui-même, que les victoires qu'il remporte ne sont que par sa propre force et que Dieu n'y est pour rien. Frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège qui nous éloignerait de Dieu. Passons-nous souvent le film de notre vie, les faits marquants qui l'ont jalonné, et remettons Dieu à sa place. C'est lui qui nous a portés. Le monde et son prince tentent sans cesse de nous persuader que Dieu n'y est pour rien, et c'est là pour nous, ses enfants, une sorte d'épreuve permanente contre l'oubli. Le monde et son prince tentent de nous faire croire qu'ils peuvent tout contrôler, qu'ils peuvent tout résoudre. Et pourtant, Jésus nous prévient et nous met en garde. Marc 13, versets 7 à 20. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établies là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée finissent dans la montagne, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Et qu'il n'y aura jamais d'autre. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Frères et sœurs, ne nous endormons pas. Je crois qu'en plus de nos épreuves physiques ou morales, je suis certain que je suis certain nous traversons de tous d'une manière ou d'une autre, notre plus grand défi dans ce monde qui nous fait croire que nous pouvons tout est de mettre Dieu toujours à sa place. Nous devons toujours mettre Dieu à sa place. La première, quelles qu'elles soient les circonstances, et c'est une réelle épreuve, car le monde fait tout pour nous faire le faire oublier. Nos épreuves servent à glorifier Dieu. Il cherche toujours notre bien. Il veut nous rendre meilleurs et il le fait par nos épreuves. Nous pouvons lire en Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit : cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Frères et sœurs, savez-vous pourquoi je suis là aujourd'hui ? À parler d'épreuves ? À rappeler qu'elles font partie du voyage du chrétien sur cette terre ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Non ? Eh bien, si vous vous souvenez du premier planning de cette période que j'avais mise en ligne, à cette date, il était prévu que ce soit Jean-Paul Walter qui soit là. Vous savez tous que Jean-Paul mène un dur combat en ce moment. Il a arrêté dans son parcours par un AVC. Il est en train de se battre pour retrouver une certaine autonomie. Mais je suis sûr qu'il sait que Jésus est là, à ses côtés. Et que ce combat, cette épreuve, il la mène avec lui. Certainement, Jean-Paul a dû se dire, mais pourquoi ? Le connaissant, je suis persuadé que malgré tout, il sait que Dieu l'aime. Et quand même, s'il n'a pas de réponse, Dieu ne l'abandonnera pas. Nos épreuves servent à glorifier Dieu. Qu'il en soit ainsi.